France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin son plan de lutte contre la pauvreté, doté d'un montant de 8 milliards d'euros sur 4 ans. Le chef de l'État a notamment appelé les premiers de cordée à ne pas oublier les derniers. Alors faut-il y voir une nouvelle phase du quinquennat, davantage axée sur le social? Et puis ce plan réussira-t-il à faire oublier par ailleurs l'étiquette de président des riches qui colle décidément à la peau du chef de l'État? Élément de réponse en tout début de ce journal avec Annabelle Grelier, mais aussi Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP.
L'autre actualité d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce sera sa visite cet après-midi au domicile de la veuve de Maurice Audin.
Oui, le président entend reconnaître à cette occasion la responsabilité de l'État dans la disparition de ce mathématicien communiste, militant de l'indépendance de l'Algérie, torturé par l'armée française et disparu sans laisser de traces. C'était en 1957. Nous écouterons notamment la réaction de l'historien Benjamin Stora.
L'interview politique, comme chaque jeudi, Thomas.
Aujourd'hui, Valran de Saint-Just, conseiller régional et trésorier du Rassemblement National XFN.
Toujours en France ce matin, avaient lieu les réquisitoires dans le procès des trois skinheads impliqués dans la mort de Clément Méric.
La précision à suivre de Florence Turm avant les plaidoiries cet après-midi et le verdict attendu demain.
À l'étranger, direction tout d'abord la Pologne.
Oui, après la décision du Parlement européen d'activer hier contre la Hongrie le mécanisme le plus radical visant un pays bafouant les règles européennes, nous irons effectivement à Varsovie. Pourquoi ? Parce que la Commission avait déjà initié le même type de procédure en décembre dernier contre les autorités polonaises. Visiblement, sans succès, nous dira notre correspondant Thomas Giraudot. Et puis avec Eric Biegala, nous commenterons les propos de la dirigeante Aung San Suu Kyi, laquelle est sortie de son silence aujourd'hui pour la première fois au sujet des deux journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, avec cette question du désir en lien avec nos identités, Caroline Emke, notre invitée, cherche à ouvrir le champ des possibles, à ne parler pas que du désir, mais des désirs de façon plurielle et pas univoque. Elle sera avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Les derniers chiffres publiés cette semaine par l'INSEE confirment à tout le moins le caractère alarmant de la situation. En 2016, près de 9 millions de Français étaient considérés comme pauvres, soit 14% de la population active. Un taux qui grimpe à presque 20% chez les moins de 18 ans, ou pour le dire autrement, en France aujourd'hui, un enfant sur 5 vit dans une famille pauvre. Et même s'ils n'ont rien ou pas grand-chose, pour autant, ils ne sont pas rien, ni même peu de choses. Le président Emmanuel Macron d'ailleurs en convient, lui qui présentait ce matin justement son plan de lutte contre la pauvreté. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes sur place au Musée de l'Homme à Paris, vous avez écouté le chef de l'État. Alors qu'y a-t-il dans ce plan? Manifestement, après la polémique sur le pognon de dingue que coûterait selon Emmanuel Macron les aides sociales, il n'est pas question de créer une nouvelle aide financière comme le RSA. Il mise surtout sur la prévention et l'accompagnement.
Oui, avec une petite surprise quand même en fin de discours, un discours qui n'est pas encore tout à fait terminé, d'un très long discours qu'Emmanuel Macron a tenu ce matin, un discours adressé avant tout aux associations, aux travailleurs sociaux, aux chercheurs, bref, les gens qui œuvrent sur le terrain auprès des citoyens pauvres. Un très long discours, car le président a égrené tous les âges de la vie, a commencé bien sûr par l'enfance, 3 millions d'enfants dans des familles pauvres qui, selon les statistiques, mettent 6 générations, soit 180 ans, à accéder à la classe moyenne. Le président, qui prône l'émancipation pour le travail, a souhaité que notre société cesse d'enfermer les gens dans un statut, mais permette aux talents de s'exprimer, car dans toute famille pauvre, c'est Mozart qu'on assassine, a-t-il dit, citant Saint-Exupéry. Les droits fondamentaux donc, des enfants seront donc respectés. Éducation, alimentation, logement, études et formation. Vous entendez peut-être le bruit derrière, car ça vient de se terminer à l'instant. Donc les formations qui seront obligatoires pour tous les jeunes décrocheurs d'ici 2020, on pourrait doubler le RSA, on pourrait le donner aux jeunes. Cela ne changerait rien, assure le président, car c'est le travail qui donne un salaire, une fierté, une dignité. Chacun doit avoir un revenu. Et c'est sur cette idée qu'Emmanuel Macron a lancé officiellement ce midi une grande réflexion citoyenne, celle de la création d'un revenu universel d'activité. Alors ce n'est pas le revenu universel qui avait été proposé pendant la campagne, mais en tout cas le projet doit être réfléchi, pensé. Il faudra un peu de temps, avoue-t-il, mais le projet de loi est inscrit pour 2020, a-t-il assuré.
Merci Annabelle Grelier en direct du Musée de l'Homme à Paris. Voilà donc pour les mesures et l'enveloppe budgétaire allouée à ce plan présenté ce matin par Emmanuel Macron. À présent, Et au-delà des pistes envisagées reste évidemment l'orientation générale. Depuis son arrivée au sommet de l'État, nombreux sont ceux qui reprochent au premier de cordée de ne marcher que sur une seule jambe, en l'occurrence la droite, d'où cette question en venant présenter lui-même ce plan pauvreté. Emmanuel Macron réussira-t-il à casser enfin cette image de président des riches qui lui colle au mocassin? Pour Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, la tâche s'annonce difficile tant les clichés ont généralement la vie dure. On l'écoute.
L'image se cristallise très rapidement au début des mandats. Dans les premiers mois, l'équipe d'Emmanuel Macron a argué que cette critique ne portait pas. Mais nous, on constate dans les enquêtes qu'elle s'est durablement incrustée dans les esprits. Elle a été nourrie par une série de propos, mais aussi par un certain nombre de choix qui ont été faits. On pense bien évidemment à la suppression de l'ISF, ou à la question des 5 euros d'APL, également dans le même registre, la désindexation des pensions de retraite qui va toucher tous les retraités, mais notamment dans l'imaginaire collectif, les retraités les plus modestes. Et puis il y a eu également un certain nombre de saillies ou de sorties. On a en mémoire la fameuse tirade sur le pognon de dingue qui serait dépensé dans le modèle de protection sociale français. Et donc tout cela va être difficile à inverser cette tendance avec un seul événement, une seule annonce qui serait celle du plan pauvreté, sachant que le terrain est d'autant plus miné que cette présentation du plan pauvreté a été reportée au cours de l'été et d'aucuns y ont vu le signe d'un intérêt moindre de l'exécutif pour ce sujet qui est pourtant majeur.
Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, il répondait à Anne Fauquemberg. Et tandis qu'Emmanuel Macron donc tente de faire oublier son costard de président des riches, de son côté, Richard Ferrand lui a vu hier son costume d'homme de confiance légèrement s'élimé deux jours après avoir été désigné par sa famille politique pour se présenter au perchoir de l'Assemblée. Ce proche d'Emmanuel Macron l'aura finalement emporté avec une courte majorité, 254 voix sur 484 suffrages exprimés. Enfin, maintenant que Richard Ferrand a libéré son poste de président de groupe, plusieurs députés lorgnent la place avec gourmandise, sans d'ailleurs qu'aucun profil ne fasse pour leur consensus. Après Laetitia Avia hier soir, Gabriel Attal, Amélie de Montchalin et Rémi Rebeyrotte se sont à leur tour portés candidats. L'autre déplacement très attendu aujourd'hui d'Emmanuel Macron, ce sera cet après-midi. Le chef de l'État doit se rendre au domicile de la veuve de Maurice Audin, ce mathématicien communiste et anticolonialiste arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger et dont les circonstances de sa disparition sont longtemps restées mystérieuses. Jusqu'à très récemment encore, en 2014, l'État s'en tenait à la version officielle de l'évasion. C'est François Hollande qui le premier reconnaîtra que Maurice Audin ne s'est pas évadé mais qu'il est mort durant sa détention. Et à présent, c'est donc au tour d'Emmanuel Macron de considérer qu'il est temps pour la France d'accomplir un travail de vérité sur ce sujet. Pour être tout à fait précis, le président de la République reconnaît que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qu'il avait arrêté à son domicile. En revanche, pas question de jeter l'opprobre sur tous les militaires français qui ont servi en Algérie. Pour le président, la mort de Maurice Audin est le fait de quelques-uns et surtout, elle a été rendue possible parce qu'il qualifie de système légalement institué. En clair, l'Élysée pèse chaque mot. Il ne reconnaît pas la responsabilité de l'État, mais celle d'un système baptisé arrestation-détention ayant donné à l'armée les pleins pouvoirs avec notamment la possibilité de recourir à la torture. Enfin, Emmanuel Macron va par ailleurs demander que toutes les archives de l'État qui concernent les disparus de la guerre d'Algérie puissent être librement consultées. Cela permettra-t-il d'apaiser les mémoires? Réponse avec l'historien Benjamin Stora, auteur notamment de Mémoires d'Algérie. Il répond à Sophie Delpan.
C'est un moment très important dans la reconnaissance par l'État français des exactions qui ont été commises pendant la guerre d'Algérie. Le cas Maurice Audin est tout à fait emblématique, exemplaire de ce qui s'est passé notamment pendant la bataille d'Alger dans l'année 57, avec la mise en œuvre, disons, de pratiques comme celle dont a été victime Maurice Audin, c'est-à-dire les enlèvements, tortures, exécutions, etc. Et par conséquent, cette reconnaissance aujourd'hui permet de lever le voile sur une page, sur une face sombre de cette histoire. C'est un geste très fort dans la connaissance de cette période parce qu'il y a des désirs d'histoire, des exigences au niveau de l'histoire, notamment formulées par les jeunes générations sur la guerre d'Algérie, on le sait, en France. C'est aussi un geste important par rapport aux populations qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée et qui composent ce qu'on a appelé l'ancien empire colonial français, donc l'immense masse de ceux qui ont été colonisés et qui regardent. Disons ce type de gestes qui sont faits par la France, ça c'est très important. Donc c'est par conséquent des moments historiques qui, par la connaissance de cette page d'histoire, nous permet de tracer des lignes d'avenir, c'est-à-dire de présenter la France toujours comme une patrie qui défend les droits de l'homme.
Cette reconnaissance par le chef de l'État, ça s'inscrit aussi dans un mouvement de reconnaissance progressif de la guerre d'Algérie ?
J'avais établi dans mon ouvrage « La gangrène et l'oubli » en 1991 le fait que la guerre d'Algérie était une guerre sans nom. Et effectivement, quelques années plus tard, en 1999, l'Assemblée nationale votait un texte disant que c'était une guerre, là, et non pas des événements ou une opération de police. Puis ensuite, il y a eu la reconnaissance par Jacques Chirac en 2005 des massacres de Sétif et de Guelma, et puis le discours qu'avait prononcé François Hollande à Alger en 2012, l'inauguration de la place Maurice Audin à Alger en décembre 2012, c'était des gestes, bien sûr, aussi, fort et important. Là, Emmanuel Macron va plus loin, beaucoup plus loin, puisqu'il met en cause, disons directement, la responsabilité d'un système, pour reprendre son expression, institué, d'un système d'État institué par les autorités de l'État de l'époque, à travers notamment le vote des pouvoirs spéciaux, bon, qui avait été voté en mars 1956 et qui avait considérablement porté atteinte aux libertés. Donc c'est beaucoup plus, naturellement, beaucoup plus important, le geste qui a été accompli aujourd'hui par Emmanuel Macron.
L'historien Benjamin Stora, il répondait à Sophie Delpont.
Midi 42 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel. Et l'heure, à présent, comme chaque jeudi, de l'interview politique.
Oui, et notre invité aujourd'hui est Valran de Saint-Just, conseiller régional et trésorier du Rassemblement National XFN. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Anne Fauquemberg du service politique de la rédaction. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une première question monsieur de Saint-Just. Comment jugez-vous la reconnaissance par l'État de l'assassinat sous la torture de l'armée française de Maurice Audin ? Est-ce que, comme Pierre Laurent, vous saluez une victoire historique de la vérité et de la justice ?
Je trouve qu'il est normal que l'on connaisse les circonstances exactes, la façon dont M. Audin est mort. Je trouve anormal qu'il ait fallu attendre autant de temps pour les connaître. Je ne sais pas exactement ce que fait ou ne fait pas Emmanuel Macron. J'ai cru plutôt comprendre qu'il allait permettre l'ouverture de toutes les archives sur cette question-là. Quant à la reconnaissance de l'État, j'ai pas exactement compris. Moi, personnellement, peut-être y a-t-il une responsabilité de l'État de l'époque, dont je vous rappelle qu'il était gouverné par des socialistes, et que c'était Guy Mollet et François Mitterrand, garde des Sceaux, qui... si on doit parler de torture institutionnalisée en Algérie, à l'époque, c'était sous leur égide. Alors est-ce qu'on va les mettre en cause ? Est-ce qu'on met en cause l'État de l'époque ? On ne va pas mettre en cause l'État en général, et certainement pas les Français qui ne demandaient pas cela et qui ont laissé les gouvernants de l'époque agir de cette façon-là. Alors parler de la torture, je peux le faire. Mais je pense plutôt que Maurice Audin a été victime de ce qu'on a appelé un peu vulgairement la corvée de bois, et que tout ça était totalement inacceptable, et nous l'avons d'ailleurs toujours dénoncé cela.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Alors avant de parler de la rentrée de Marine Le Pen à Fréjus dimanche, ce chiffre, un tiers de vos permanences auraient fermé à cause du gel de votre subvention publique en lien avec l'affaire des assistants parlementaires présumés fictifs au Parlement européen. Vous confirmez ce chiffre ? Vous en êtes vraiment à ce point-là ?
Non, je ne confirme pas ce chiffre. Nous devions de toute façon faire des économies et vivre encore plus sobrement. Et à l'heure actuelle, en ce qui concerne les permanences, c'est un peu de la chirurgie, nous agissons au cas par cas, mais j'ai encore payé des loyers à des fédérations qui n'avaient plus d'argent la semaine dernière pour que elles paient leur loyer de permanence. On prend des permanences moins grandes, mais il n'y a pas de plan globale de fermeture des permanences du Rassemblement national dans les fédérations.
Alors, ces 2 millions d'euros qui ont été gelés et que vous dénoncez, c'est seulement 10% de la subvention publique totale que vous attribue l'État pour cette législature. Vous avez droit environ à 4,5 millions par an sur 5 ans, ça fait à peu près
c'est plus que 10%.
20 millions. Comment vous en êtes arrivé là? Ces 2 millions d'euros, ce n'est pas toute la subvention que l'État vous attribue.
C'est 2 millions sur 4,5 millions. C'est pas 50%, mais presque. C'est absolument énorme. Puis c'est de la trésorerie, si vous voulez. On nous aurait mis une hypothèque conservatoire de sûreté sur un immeuble, on aurait pu comprendre. Mais là, d'un seul coup, on nous prend nos 2 millions, alors que on a démontré au juge d'instruction et à la cour d'appel que sur ces 2 millions qu'invoquaient les juges d'instruction en disant « vous êtes d'ores et déjà, nous jugeons que vous êtes d'ores et déjà redevable de 2 millions », on leur a démontré qu'il y avait déjà 1 700 000 euros qui avaient été déjà piqués aux parlementaires européens par le Parlement européen. On leur dit « mais vous nous faites payer deux fois ». Peut-être que la cour d'appel va reconnaître ça le 26 septembre. En tout cas, nous l'espérons beaucoup. Mais c'est un coup dur très brutal, puisqu'il crée une crise de trésorerie, puisque cette subvention est arrivée déjà, devait arriver, elle arrivait avec retard. Encore plus de retard octobre-novembre. L'État nous dit, on comprend votre situation, on va vous verser un acompte. Et l'acompte est piqué par les juges d'instruction. Alors là, on peut mourir de crise de trésorerie.
Mais il n'y a pas eu d'erreur de gestion au Rassemblement national, des salaires un peu trop élevés pendant la dernière campagne, des prêts à l'étranger qu'il faut rembourser et qui n'ont pas été bien provisionnés.
C'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec cette affaire de trésorerie. La dernière campagne, c'est le budget de la campagne électorale qui est complètement différent du budget du Rassemblement national. Et ça n'a rien à voir. En ce qui concerne l'endettement du Rassemblement national, qui est beaucoup inférieur aux autres partis politiques de même importance, il est exclusivement dû à notre exclusion du réseau bancaire. Je pourrais en dire beaucoup.
Alors, le RN est toutefois mis en cause actuellement dans 6 affaires judiciaires. C'est à cause de ces affaires que le parti réfléchit en ce moment à la candidature d'Hervé Juvin pour les européennes. Hervé Juvin, un intellectuel souverainiste peu connu du grand public, alors que les eurodéputés Louis Alliot et Nicolas Bay sont poursuivis justement dans l'affaire des assistants parlementaires.
Non, c'est pas du tout à cause de ces affaires. C'est parce que Hervé Juvin, moi, que j'ai vu en conférence et dont j'ai lu avec beaucoup d'attention le dernier ouvrage, est quelqu'un qui de la société civile, c'est pas un homme politique professionnel, qui viendrait nous rejoindre et qui nous apporterait beaucoup de champs neufs, surtout de vision neuve sur beaucoup de sujets et notamment sur les questions de écologiques. Et je pense que dans le cadre de la campagne européenne, on en parlera beaucoup.
Une dernière question.
Vous allez dévoiler dimanche cette image de Marine Le Pen avec Matteo Salvini qui va lancer la campagne des européennes. Est-ce que votre campagne, vu les moyens contraints, elle va reposer sur cette image?
La campagne aura un budget particulier, mais c'est vrai que la campagne électorale des européennes va s'appuyer sur les succès des eurosceptiques, si on peut utiliser ce terme-là, dans les autres pays européens, avec un but, parvenir à obtenir une majorité eurosceptique au Parlement européen au mois de mai prochain, ce qui serait un tremblement de terre.
Bien, merci. Valerande Saint-Just d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui, conseiller régional et trésorier, je le rappelle, du parti Rassemblement National. Et merci également à Anne Fauquemberg du service politique de la rédaction. Le procès des 3 skinheads impliqués dans la mort de Clément Méric, cet étudiant devenu le symbole de l'engagement antifasciste tué en 2013 lors d'une bagarre, touche à sa fin. Ce matin, l'accusation a requis respectivement des peines de 7 et 12 ans de réclusion à l'encontre de Samuel Dufour et Esteban Morillo. Quant à Alexandre Hérault, il écope de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les précisions de Florence Turme.
Un réquisitoire très court, à peine plus d'une demi-heure, pour évoquer ce que l'avocat général appelle une affreuse histoire, un acte insensé. 7 secondes si l'on se réfère au minutage, et il les égrène face à la cour. Sachez bien que vous n'êtes pas jugé parce que vous étiez des skinheads, tatoués et militants, lance-t-il aux accusés. On a parlé d'un procès politique, mais ce fut autre chose, un vrai procès pénal. La confrontation aussi entre la grandeur d'âme et la douleur contrôlée d'une mère. La déposition d'Agnès Méric à la barre restera l'un des moments fort de cette audience est les piteuses dénégations d'un groupe qui admire le mal et la souffrance des autres. Clément Méric et ses amis ont-ils provoqué les accusés ? Interroge encore Rémi Crosson du Cormier. La provocation, c'est le nuage qui précède la tempête, mais nul n'est obligé d'y céder. Restent les questions sur l'utilisation d'un point américain que les débats n'ont pas permis de trancher, mais les bagues que portait Samuel Dufour sont bel et bien des armes par destination. L'avocat général convoque également le droit pour expliquer aux jurés l'action indivisible du groupe qui fonde les circonstances aggravantes de violence en réunion. La mort brutale et prématurée d'un homme à peine sorti de l'enfance est source d'une grande injustice, conclut-il. Le résultat n'est certes pas voulu, mais la rixe en pleine rue est inacceptable, la sauvagerie inadmissible, ce qui justifie pour lui les peines d'emprisonnement ferme requises à l'encontre d'Alexandre Hérault et Samuel Dufour, les 12 ans de réclusion demandé pour Esteban Morillo. Après les faits, les accusés ont été placés en détention préventive, mais ils comparaissent libres, tous les trois, à leur procès.
Et j'ajoute qu'après les plaidoiries de la défense cet après-midi, le verdict est donc attendu demain. Les eurodéputés se sont finalement prononcés hier en faveur de la très sensible réforme du droit d'auteur, objet d'une bataille sans précédent entre artistes et éditeurs de presse d'une part et géants du numérique et activistes de la liberté sur Internet d'autre part. Réunis en plénière à Strasbourg, le Parlement a avalisé donc une nouvelle version du texte qui prévoit notamment une rémunération des artistes depuis YouTube, mais aussi l'instauration de droits voisins pour les médias relayés par Google. Alors ce vote en réalité ouvre désormais la voie aux négociations avec le Conseil de l'Union européenne et puis la Commission européenne afin de s'entendre sur un texte définitif. Et puis le Parlement européen, toujours lui, a semble-t-il tracé une ligne rouge en dénonçant la menace systémique pesant sur les valeurs de l'UE en Hongrie. Hier, les eurodéputés ont activé une procédure rare dite de l'article 7, le mécanisme le plus radical visant un pays bafouant les règles européennes. Alors c'est évidemment un revers pour Viktor Orban, reste toutefois à savoir si à terme cette procédure conduira effectivement à des sanctions contre la Hongrie. Sur ce point, l'exemple de la Pologne, contre laquelle la Commission avait initié le même type de procédure en décembre dernier, laisse plutôt perplexe. 9 mois plus tard, le parti au pouvoir ne semble toujours pas effrayé par la procédure. C'est une correspondance à Varsovie de Thomas Giraudeau.
Le gouvernement du PiS poursuit sa transformation de la Cour suprême pour laquelle il est justement visé par l'article 7 du traité de l'Union. Mardi, un nouveau chef de l'institution a été nommé par le président de la République, Andrzej Duda, en lieu et place de l'ex-présidente de la Cour suprême, Małgorzata Gersdorf, obligée de prendre sa retraite en application de la nouvelle loi votée par le Parlement polonais. Au début du mois d'août, pourtant, les juges de la Cour suprême avaient posé un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne afin d'empêcher ou au moins ralentir les nominations des juges, mais le PiS, au contraire, a accéléré le rythme. Alors pourquoi le gouvernement polonais poursuit sa reprise en main de la justice malgré la procédure de l'article 7 ? Eh bien parce qu'elle n'en est pour l'instant qu'à un stade préliminaire. Varsovie a été auditionnée une fois en juin dernier, et puis la Pologne sait qu'elle peut compter sur son allié hongrois pour bloquer toute tentative de sanction envers elle. En revanche, la Commission européenne, insatisfaite des promesses lancées par le Premier ministre polonais durant l'été, a lancé une procédure d'infraction contre la Pologne. Dans les prochains jours, elle pourrait saisir la Cour de justice de l'Union.
La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi est enfin sortie de son silence aujourd'hui au sujet des deux journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison après leur enquête sur le massacre de musulmans Rohingyas par l'armée. Eric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors on aurait pu espérer que la prix Nobel de la paix saisisse cette occasion pour se montrer moins imperméable aux critiques qui lui sont adressées. Et puis non, si Aung San Suu Kyi a pris la parole ce matin, c'est uniquement pour défendre et justifier donc l'emprisonnement des deux journalistes.
Oui, on savait Aung San Suu Kyi très très mal à l'aise sur le dossier Rohingya, incapable par exemple de condamner les exactions commises par l'armée birmane depuis un an. Mais on serait quand même attendu à davantage de compassion pour le sort des deux journalistes de Reuters. Condamnés à 7 ans de prison lundi, les deux reporters birmans de l'agence de presse avaient été arrêtés alors qu'ils enquêtaient sur le massacre des habitants du village Rohingya d'Indin. Mais, interrogée sur leur sort devant le public du Forum économique mondial à Hanoï au Vietnam, la dirigeante birmane a tout simplement défendu le principe de leur emprisonnement.
Ils n'ont pas été emprisonnés en tant que journalistes. Ils ont été emprisonnés parce qu'ils ont été jugés, parce que le tribunal a jugé qu'ils avaient enfreint la loi sur les secrets officiels. Et si l'on croit à l'état de droit, ils ont parfaitement le droit de faire appel de ce jugement et de mettre ainsi en lumière ce qui fait que ce jugement est fautif s'ils le considèrent fautif.
À vrai dire, le procès des deux reporters ressemble plutôt à l'illustration parfaite d'un état de droit parfaitement défaillant en Birmanie. Les deux hommes ont en effet été condamnés pour la possession de documents que venait de leur remettre un policier. Un véritable piège, ont-ils plaidé à l'audience. Un des policiers a même confirmé, au cours de cette même audience, avoir participé à ce piège. Quant au massacre des villageois d'Indin par des militaires birmans sur lequel ils enquêtaient, il a lui aussi été officiellement reconnu comme une réalité par la justice birmane.
Merci Eric Biegala. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Le ciel sera souvent nuageux, mais calme et sec sur l'ensemble du pays. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 18 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et le prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera évidemment à 18h.